Radio Foot International.
Tom Rossi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Radio Foot passe en heure d'hiver, 17h10 à Paris, mais toujours 16h10 en temps universel du lundi au vendredi. Pour la plupart d'entre vous, chers auditeurs, cela ne change rien, contrairement à nos consultants du jour. Ils ne se sont pas fait piéger par le changement d'horaire ici à Paris. Habib Bey, Chérif Guémour et Hervé Penaud sont bien avec moi en studio. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Un week-end animé avec une nouvelle journée de Ligue des Champions cette semaine. Programme chargé. Donc, on va d'abord filer en Espagne, deux jours après le Classico Barça-Real Madrid remporté par les Merengues 3-1 au Camp Nou. Le Real et Zidane respirent après deux défaites Barcelone-Ekeman. En plein doute, on sera en ligne avec notre correspondant en Catalogne, François David. Le Barça qui affrontera en Ligue des Champions mercredi, la Juventus Turin, la vieille dame au ralenti sans Cristiano Ronaldo. Deuxième match nul de suite face au Hellas Vérone. Hier, la Juve brouillonne. Début compliqué pour le nouvel entraîneur Andrea Pirlo. Après l'Italie, escale en Angleterre avec cette question. Mais où est donc passé Pierre-Emerick Aubameyang? L'attaquant gabonais d'Arsenal n'a plus marqué en Première Ligue depuis 5 matchs. Son équipe a encore perdu 1-0 face à Leicester. Eux vont un peu mieux. Les Lyonnais ont giflé les Monégasques 4-1 en Ligue 1. L'OL efficace avec un nouveau doublé du Camerounais Karl Toko Ekambi. Et puis, le Burkina Faso à l'honneur en fin d'émission avec un étalon qui affole les compteurs aux Pays-Bas. Lassina Traoré a inscrit 5 buts ce week-end avec l'Ajax Amsterdam. Vous l'entendrez, son compatriote Issoufou Dayo a lui offert au club marocain de Berkane la première coupe de la Confédération de son histoire. Voilà le programme Radio Foot. C'est parti.
Valverde, l'occasion nette pour Valverde, le tir de Valverde, 5 minutes de jeu et déjà ce golazo, ce classico démarre fort, goal du Real Madrid. Ramos le transforme, ce penalty, le Real Madrid prend l'ascendant. Maintenant au Camp Nou. Passe de Modric maintenant pour Vinicius. La sortie, la récupération, Rodrigo, Modric, Modric face à Neto. Dribble extérieur pour finir avec la classe, avec l'élégance, le troisième but du Real Madrid.
Barça 1, Real Madrid 3.
Barcelone 1, Real Madrid 3. Le Classico, l'un des matchs les plus attendus de l'année. C'était donc samedi, un match rythmé. Avant de parler de Zidane qui se donne de l'air, on s'arrête quelques instants sur la qualité de ce match, ce Classico. Il a tenu finalement toutes ses promesses. Habib Bey, selon vous, malgré le huis clos et deux équipes un peu malades?
Oui, alors j'ai bien aimé ce qu'a produit le Real, un petit peu moins le Barça, je trouve, en termes de qualité. Est-ce que le Real, je les ai trouvés séduisants parce que le Barça ne l'a pas été? C'est une possibilité. J'ai énormément aimé les sorties de balles, on en parlait des joueurs du Real Madrid. J'ai aimé cette sérénité alors qu'il y avait beaucoup de pression sur ce club. On sent bien que ce sont deux équipes qui forcément n'étaient pas prêtes comme on l'aurait voulu physiquement, mais ce qui est bien, c'est que on se rappelle que certains classicos ont été soporifiques, celui-ci ne l'a pas été, il y a eu des buts. Ce qui est dommageable, c'est de voir un Barça dans cet état, donc forcément on relativise aussi la victoire du Real.
Sur la qualité de ce match, Hervé Penaud?
Bah, inattendu, j'allais dire, hein, puisqu'on avait l'impression de deux équipes, hein, alors si ce n'est malades, mais en tout cas en convalescence. Hein, on savait que le Real, bah, il y avait l'épée de Damoclès sur la tête de Zinedine Zidane, ce qui paraît tout invraisemblable quand on pense ce qu'il a fait avec le club. Enfin bon, c'est une réalité, parce que c'est la réalité madrilène. Et puis du côté de Barça, bah, on voit que Man, bah, lui, il va falloir qu'il trouve son système, trouve ses joueurs. Là, il est en train de chercher. Donc on se disait, ça risque d'être l'un des moins intéressants des dernières années. Et puis au contraire, ça a été très enjoué, il y a eu beaucoup de rythme du jeu, la volonté des deux équipes aussi de gagner. Alors c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, comme Barcelone, on ne sait pas exactement à quel niveau se situe aujourd'hui, ça a peut-être permis aussi au Real de pouvoir faire ce qu'il a fait, mais il n'empêche qu'au Real, il y a quand même une sorte de force tranquille, en dépit des apparences, en dépit de ce qui se passait réellement sur le terrain sur les deux dernières rencontres, bah, c'est quand même une équipe qui est assez sûre d'elle finalement.
Chérif Guémour, vous êtes d'accord avec cela?
Oui, c'est plutôt une bonne surprise, parce que quand on constate l'état de fatigue générale en Liga, hein, je rappelle que le FC Séville, pareil, qui est vainqueur de l'Europa League, est mal en point, mais c'était plutôt pas mal. Dans les années précédentes, on a souvent regretté l'hyper-agressivité, les coups durs qui faisaient que c'était des classicos très très disputés. Là, je l'ai trouvé un peu moins disputé. Donc, une fois de plus, je pense que il y a un peu de la forme physique qui est en train de s'évaporer. Donc voilà, il y a eu très peu d'avertissements. Je regrette pas les expulsions. Hein, je regrette pas qu'il n'y ait pas de carton rouge. Mais je veux dire, au niveau de l'engagement, c'était plutôt gentil. Maintenant, ce qui fait la différence, il y a deux clubs qui, pour moi, c'est pas qu'ils sont malades, mais qu'ils sont mal en point. Ce qui fait la différence, c'est du côté du Real Madrid, il y a Benzema, Taulier, Ramos, Taulier et Modric qui rentre, Taulier. Ce qui fait la différence. En face, il y a qui? Il y a Messi qui tient une mi-temps et puis c'est tout. Donc voilà, on est encore sur les forces vives du Real Madrid. Et ben, ça suffit pour gagner ce classico-là.
Il y a une vraie interrogation quand même sur les états de forme physiques des équipes qui ont participé au Final 8. Ou alors juste avant, hein, l'élimination en 8e de finale.
Sauf le Bayern.
Qui a perdu quand même un match.
Ça paraît rien, évidemment, parce qu'ils font à côté,
mais enfin, ils ont fait une jamais.
Tous les autres ont des difficultés.
Donc, il y a quand même quelque chose. C'est-à-dire que sur la préparation, ils ont fait des préparations, soit pour les huitièmes de finale retour, hein, on l'a vu avec le Real, soit pour ceux qui sont allés un peu plus loin en quart de finale. Et visiblement, il n'y a pas du tout les résultats attendus depuis le début de la saison. Donc, je pense qu'il y a vraiment de cause à effet entre ce Final 8 et ces doubles préparations, ces triples préparations qu'ont fait certaines équipes entre confinement, certains ont repris l'entraînement. Après, il a fallu se repréparer le Final 8, repartir sur un championnat. Et ça doit pas être simple, je sais pas ce que t'en penses.
Oui, et puis après, il y a des problématiques de gestion de club. Lorsqu'on se rappelle ce qu'a vécu Barcelone avec l'histoire Messi, là, il y a l'histoire Griezmann qui pèse, mine de rien, sur le Barça, parce qu'on en parle beaucoup en France, mais il faut pas oublier qu'on en parle beaucoup également en Espagne. On épie tous les faits et gestes du français, de savoir par qui il est remplacé. Là, c'est le jeune Pedri qui ne l'a pas remplacé, mais qui est choisi par Ronald Koeman. Donc Ronald Koeman est aussi dans une atmosphère un petit peu bizarre pour lui, alors qu'il était censé relancer ce club, régénérer un petit peu cet effectif, remettre Messi dans le droit chemin. Moi, j'ai vu un Messi qui, d'habitude, gambade, mais a de l'explosivité. Là, je l'ai vu gambader sans cette explosivité, même s'il est décisif sur le but du Barça. Après, j'ai un vrai problème. C'est l'équation Busquets. Sur ce match-là, concrètement, il est en grande difficulté physique et il n'a plus d'influence sur le jeu offensif de son équipe. Il était avant la plaque tournante de cette équipe.
L'impulsion vers l'avant.
Il était capable de freiner, en fait, toutes les contre-attaques que le Barça pouvait prendre parce qu'ils étaient très exposés. Là, il freine plus rien et il n'est plus non plus influent sur le jeu offensif de son équipe. Et ça devient un vrai problème. Ça devient un vrai problème de choix parce que s'il fait le choix de le sortir, bah, ça va affecter Messi dans sa relation avec le cadre qui est Busquets. Et ça, c'est un vrai problème pour le Barça. Mais c'est vrai que chapeau à Zidane parce qu'après ce qu'il a vécu et voir le Real fournir ce genre de prestations avec un petit peu de réussite aussi, hein, parce qu'on parlera d'effet de jeu, mais ça l'aide aussi à gagner ce match. Mais j'ai aimé la sérénité qu'a dégagé ce Real Madrid.
Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que Koeman se trouve confronté à une réalité, c'est-à-dire la baisse de forme, alors soit momentanée, soit définitive, j'en sais rien, de Busquets. Il va falloir les gérer. Il a déjà fait relativement fort, Koeman, en arrivant, en disant, moi déjà, Suarez, grand ami de Messi, ils pleuraient tous quand il partait, j'en veux plus, il est parti. Pareil pour Rakitic, pareil pour Vidal. Donc, il a réussi d'entrer à insuffler sa patte. Mais il ne peut pas non plus complètement briser tout le vestiaire de Barcelone. Déjà, il l'a fait beaucoup. Il ne va peut-être pas aujourd'hui s'attaquer en plus à Busquets. Donc, c'est un petit peu compliqué aussi pour lui, pour régénérer comme il aimerait, j'imagine, son équipe. En plus, il voulait absolument Memphis Depay, qu'il n'a pas eu. Ce qui veut dire quand même que Griezmann, son idée de départ, c'était déjà le bon. Il faut quand même bien s'en rendre compte.
Tout à fait,
qu'il n'y avait pas de même. Griezmann, à ses yeux, n'avait pas sa place. Parce que c'est un profil trop proche, tout simplement, j'imagine, de celui de Lionel Messi. Mais c'est pas simple de prendre cette équipe de Barcelone dans ces conditions-là. On verra comment il va s'en sortir.
Ouais, ces deux équipes, elles sont en fin de cycle et il faut passer à un autre cycle. C'est ce qu'il y a de plus dur pour un entraîneur, pour une équipe. Cette équipe, elle a fonctionné sur les cadres des deux côtés. On les connaît par cœur. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à partir du côté du Barça. Le Real sera obligé de faire pareil dans pas longtemps, notamment au milieu de terrain. Il faudra des successeurs à Casemiro, à Modric, à Kroos aussi. Même s'ils sont encore performants, il y a rien à dire. Mais il faut déjà y réfléchir. Et j'ai l'impression que le Barça y a réfléchi beaucoup trop tard. On s'est focalisé sur Messi, dépositaire du jeu, buteur, l'homme à tout faire. Et là, le système ne fonctionne plus. C'est pour ça que Koeman, je pense, a laissé partir Suarez pour marquer vraiment de son empreinte le fait qu'il y aura un nouveau cycle. Mais comment on enclenche un nouveau cycle? Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et le Real Madrid sera confronté de toute façon. Donc, on sait très bien que Zidane veut très très vite repartir s'il le peut. Avec évidemment Camavinga, Mbappé, les joueurs qui l'attendent depuis quelques années. Et c'est des joueurs très jeunes, donc ça annonce s'il tient jusque-là.
Venons-en, justement, et venons-en à Zinedine Zidane. On parlait de lui comme un homme sur la sellette. Après deux revers, une en championnat contre Cadix, le promu, et une autre contre l'équipe B hein, du Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Il avait lui-même pris la responsabilité de cette défaite contre le Shakhtar, annonçait qu'il trouverait la solution, et il a réussi, l'entraîneur français.
On n'est pas là pour fermer des bouches. Nous sommes là pour travailler, croire en ce que nous faisons et rester soudés. Je suis très fier d'eux parce que quand il a fallu se battre pour défendre, ils l'ont fait. C'était très important. Au final, tout ce qui compte, c'est d'essayer de faire un bon match en équipe. Et c'est ce que nous avons fait.
On va revenir au Barça dans quelques instants. Cette victoire du Real, qui plus est contre le grand rival Habib Bey, ça lui donne énormément de crédit à Zinedine Zidane.
Oui, mais je crois qu'on attribue cette victoire à Zidane, bien sûr, mais c'est la victoire de son vestiaire. C'est que lorsqu'un entraîneur ne perd pas son vestiaire, il ne sera rarement en difficulté. Et je pense qu'il a un lien avec Ramos, et il faut pas l'oublier. Ramos n'est pas là en Ligue des Champions quand il perd contre le Shakhtar. Quand ce joueur-là n'est pas dans cette équipe baisse de niveau, clairement. Baisse de niveau en intensité, baisse de niveau en qualité, baisse de niveau en leadership. Et je pense que lui apporte beaucoup en tant que relais sur le terrain. C'est un vrai patron. On le voit, il prend ses responsabilités. Au-delà du penalty, mais c'est un défenseur, c'est sûrement l'un des plus grands défenseurs aujourd'hui, pas de tous les temps, mais en tout cas du football actuel, c'est l'un des plus grands. Et ce qui est sûr, c'est que Zidane dégage quelque chose. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il est sous pression. Sa conférence de presse avant le match est la même que la conférence de presse après le match. Vous pouvez avoir des entraîneurs qui sont déstabilisés par le contexte et qui après le match vont un peu fanfaronner. On a déjà vu Mourinho le faire, par exemple, un Mourinho très agacé et un Mourinho très jovial parce qu'il venait de renverser la situation. Vous avez vu le même Zidane avant et vous avez vu le même Zidane après. Et mine de rien, c'est le signal que vous envoyez à votre vestiaire. C'est-à-dire que vos joueurs, ils sont chez vous, ils voient la conférence de presse du coach, les Ramos, les Modric, et ils se disent bah, « le coach, il n'y a rien qui le touche ». Et par contre, ils savent à quel point c'est difficile de gagner des matchs de football comme celui-ci. Donc ils ont cette humilité parce que tu ne peux pas gagner autant de trophées avec un carafon comme ça. Et c'est ce qui fait la force du Real et c'est ce qui fait la force de Zidane en tant que manager. Parce qu'on n'oublie pas cet aspect, que c'est un manager hors pair. Parce que s'il a gagné,
là-dessus qu'il est le plus fort.
C'est là-dessus qu'il est le plus fort. Alors oui, bien sûr, il a des dispositions tactiques et techniques.
Mais
en termes de management, alors que tout le monde a été surpris par ça. On se rappelle de lui dans les médias, on se disait ça va être difficile. Absolument. C'est quelqu'un qui maîtrise son vestiaire. Et lorsque vous maîtrisez votre vestiaire, vous avez en quelque sorte gagné.
Sheriff Gamour.
La situation, elle était difficile sur deux matchs. Le Classico, il l'a gagné, mais il y a aussi l'autre match qui arrive, c'est Mönchengladbach. Parce que quand on revient au Shakhtar, alors c'est vrai qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient absents, ou alors qui sont entrés en deuxième mi-temps, je pense à Benzema.
Enfin, ils étaient 9 en moins de l'autre côté. Hein.
Ah, merci, j'y arrive. La première mi-temps, ça va trop vite pour le Real, c'est une réalité.
Pour Varane surtout.
Pour Varane, alors t'inquiète, ils sont tous mis sous pression, mais ça c'est une réalité, oui. C'est pour ça quand on parle d'évaluer ce Classico, moi je veux bien, j'ai vu un bon match, mais j'oublie pas qu'il y a eu le mercredi d'avant cette équipe du Real, mais ça va trop vite, j'ai revu les buts qu'ils ont pris en première mi-temps, ils sont mais complètement débordés. Alors il y avait des absents, le match qui arrive, c'est à Mönchengladbach, c'est pas un cadeau, c'est une équipe qui attaque, qui a vraiment du répondant, là ça va être aussi un autre test. Souhaitons pour Zinedine Zidane qu'il ne perde pas ce match parce que ça va le remettre sur la sellette. N'oubliez pas, on est sur un cycle de deux matchs. Le Classico, très bien, c'est passé. Maintenant, il y a Mönchengladbach. Et là, s'agirait pas de perdre trop de points. Alors, il y a déjà une défaite à domicile.
C'est ça qui est fabuleux. C'est ce qui est fabuleux quand même dans le football au Real Madrid. C'est-à-dire qu'un entraîneur qui a tellement gagné, il a même pas le crédit de pouvoir même perdre 3 ou 4 matchs de suite. Ça paraît invraisemblable. D'où l'intérêt d'être un meilleur manager, entre guillemets, que tacticien. Parce que tacticien, ça prend un peu de temps. De mettre en place une équipe, de construire des relais préférentiels, ça vient pas d'un match sur l'autre. Il faut quand même du travail de fond. Alors que manager, arriver à refaire démarrer une équipe, ce qu'il a fait à l'époque avec juste à l'après Benitez, là, je dis pas c'est plus simple, mais si vous avez ça en vous, si vous, l'image que vous avez auprès de ces grands joueurs, un joueur comme Ronaldo, quand il l'a vu arriver sur le banc, il le connaissait déjà comme adjoint, il a envie de l'écouter, il a envie de grimper au rideau. Et puis lui, il a eu l'intelligence de les mettre toujours dans les meilleures conditions, en pensant c'est vous les joueurs qui allez faire la différence, c'est pas moi l'entraîneur. Benitez, c'est un peu le contraire, qui avait expliqué à tout le monde, toi, tu sais, à l'intérieur du pied, faut mettre ton pied comme ça. Alors les mecs disent, mais il est complètement fou, ça fait déjà 25 ans qu'on est au très haut niveau. Donc lui, il a cette grande capacité-là. D'où D'où effectivement ce côté manager hors norme, c'est-à-dire gestion des humains, à mon avis, gestion des stars. Lui-même ayant été un immense joueur, eh ben il sait comment gérer ces gens-là. Eh ben c'est ce qui fait la différence.
Et au final, cette victoire, le Real remonte à la deuxième place, à un point de la Real Sociedad qui compte un match en plus. Donc le Real pourrait même être leader, alors qu'on parlait de son entraîneur qui puisse être viré. Les Merengues y respirent donc avant d'affronter Mönchengladbach. Et de son côté, le Barça enchaîne une deuxième défaite de suite en Liga, un troisième match d'affilée sans gagner. Avec nous pour en parler, François David, notre correspondant à Barcelone. Bonjour François.
Bonjour Tom, bonjour à tous.
François, qu'est-ce qu'on dit en Catalogne après cette défaite? Est-ce qu'on pointe du doigt plutôt le nouvel entraîneur Ronald Koeman ou les joueurs?
Bah, on pointe surtout ceux qui sont les moins lucides, ils pointent surtout l'arbitre qui, selon moi, a tué le match avec la faute de Clément Lenglet, qui pour moi il y a faute sur Sergio Ramos, il lui tire le maillot. Et ils ont dit que c'était un scandale, une fois plus que le Real Madrid était favorisé par les arbitres, que Sergio Ramos avait poussé avant Clément Lenglet et qu'il n'y avait jamais pénalty. Et ceux qui ont un peu de lucidité, ils se rendent compte que justement après le pénalty, le Barça s'est complètement effondré, mentalement et physiquement. Il aurait pu avoir facilement 4-1 pour le Real Madrid, voire même 5-1. Et l'état de santé de Messi, qui a été très 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 bon en première mi-temps, voilà, il a tenu jusqu'au pénalty, mais après il s'est écroulé comme les autres. Et quand Messi est pas bon dans ce Barça-là, eh ben c'est tout Barça qui boite. Donc il y a aussi cette proportion pour le FC Barcelone à ne pas gagner cette année contre des équipes européennes. On l'a vu contre le FC Séville, match nul, ils ont perdu contre Retafe et ils viennent de perdre contre le Real Madrid. Donc incapacité de gagner contre des vraies bonnes équipes européennes. Et surtout, je crois que c'était Habib qui en parlait tout à l'heure, l'état de forme de certains, notamment Sergio Busquets. Moi, je pourrais même ajouter Frankie de Jong. Le milieu de terrain n'a pas été bon, Coutinho n'a pas été bon. Voilà, les meilleurs étaient finalement Sergino Dest, un jeune de 19 ans, un Américain qui vient juste de débarquer, Neto, le gardien remplaçant, et Ansu Fati qui vient d'avoir 17 ans.
Ouais, donc au final, au-delà de ça, ce sont les choix de Koeman qui posent question à Habib Bey. Pourquoi garder cette doublette en milieu défensif de Young et Busquets?
Parce qu'ils ont toujours été dans cet aspect de tout dominer et du coup ils pouvaient se permettre d'avoir des milieux axiaux défensifs qui soient pas forcément des milieux axiaux type Casemiro. Sauf que là le Barça depuis quelques années subit beaucoup plus et on le voit, Lenglet et Piqué sont beaucoup plus exposés qu'ils n'étaient par le passé. Il y a moins de protection de la part des milieux défensifs et puis avant il y avait une hégémonie offensive au sein de cette équipe qui était incroyable, c'est-à-dire que ils avaient tellement de puissance offensive, ils étaient tellement forts offensivement,
ça leur servait de système,
fait pour même être moins en difficulté en fait défensivement, sauf que là ils le sont beaucoup moins. Je crois que sur le match ils ont 3 ou 4 tirs cadrés sur le match, c'est pas assez pour
mais
le Barça lorsqu'on a autant de
ouais
exactement je pense que ça devient difficile parce que certains joueurs sont moins bons. Je pense à Jordi Alba qui est pas mauvais mais qui est moins influent qu'il ne l'était, même s'il est décisif sur le but d'Ansu Fati. Je dis pas qu'il est pas beau, attention, il a toujours un niveau très élevé, mais forcément lorsque les niveaux sont moins importants, que Messi doit presque prendre tout sur ses épaules, et comme le disait François, il a été bon en première mais il a sombré comme les autres en seconde, bah ça devient un problème collectivement. C'est la problématique du Barça aujourd'hui.
Et c'est vrai qu'il va falloir retrouver un jeu collectif, mais il peut pas, Koeman, ce que je disais tout à l'heure, mais il peut pas avoir un problème Busquets dans le vestiaire. Là, c'est pas possible, parce qu'à un moment, c'est les dernières cartouches qu'il peut tirer. S'il est vraiment en difficulté et s'il est au pied du mur, il va falloir réactiver une dernière possibilité, ouvrir une dernière porte qui serait éventuellement, pourquoi pas, de le mettre sur le côté. Mais là, ça veut dire qu'après, votre vestiaire, vous êtes quasiment mort au niveau du vestiaire. Il faut qu'il y ait des résultats. S'il n'y a plus de résultats, là, ça sortira un peu la fin. Donc, il va falloir qu'il arrive à gérer autour de ça. Il n'empêche qu'individuellement, ça reste quand même des joueurs de très bon niveau encore. C'est ça surtout. On sent qu'il va falloir qu'il trouve, moi, je pense, une assise déjà collective. Parce que le football, il ne faut jamais oublier, surtout à Barcelone, c'est un sport collectif. Et malheureusement, on ne sent plus tellement ça aujourd'hui dans cette équipe-là.
Parce qu'il faut faire la revue d'effectifs. Il y a des joueurs qui sont arrivés, d'autres joueurs qui sont en méforme. Il faut arriver à trouver la bonne formule. Les joueurs, ça prend du temps. Ça prend du temps.
Mais le temps, tu ne l'as pas quand tu es à Barcelone.
Et le temps, tu ne l'as pas. Le temps, tu ne l'as pas.
En même temps, ils ne lui ont pas donné. Ils lui ont donné un an de contrat.
Je crois que c'est ça. Hein.
Si je crois bien, si je me rappelle
en
bien.
En pensant à Xavi.
Mais ce qui est sûr, c'est que c'est aussi travailler sur les complémentarités. On se rend pas compte, mais cette équipe du Barça, avant d'être un collectif, c'était souvent des binômes ou des trinômes qui fonctionnaient très très bien ensemble. On pense aux trois du milieu de terrain, on pense à ce duo, par exemple, Messi-Suarez, qui a très très bien fonctionné.
Sur les côtés,
là, aujourd'hui, devant, pour l'instant, je vois quelques solistes. Je vois Messi de temps en temps, je vois Fati de temps en temps, mais je vois pas Coutinho, Fati et Messi ensemble dans la même action où concrètement on
ça
peut...
Ça commence à venir,
ouais, non, mais
c'est
bien
timide.
Sûr. Mais ce que je veux c'est dire, timide. C'est que si tu... C'est, ça commence à venir, et ouais. Heureusement. Mais si tu te rappelles, par le passé, ouais, on était tous... à regarder le Barça comme tu regardais un tableau de je ne sais pas quel peintre qui t'aurait c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui tu ressens plus ça avec le Barça, et c'est ça qui est un petit peu étrange d'ailleurs, puisque il y a toujours des joueurs de grande qualité comme le disait Hervé.
Et pour en venir à ces fameux changements de cycle qu'avec une équipe qui a tout dominé ou pratiquement, rappelez-vous que là, on attend depuis 8 ans que le Manchester United redevienne le grand Manchester qu'il a été. Ça fait depuis 8 ans qu'il trouve plus la formule. Et je pense que ça, les problèmes avaient déjà commencé avec Ferguson. Le génie de Ferguson, ça va toujours été d'anticiper les équipes à venir changer deux ou trois choses dans le collectif.
Mais par petites touches. Prenait un joueur.
Mais à la fin, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard s'il a gardé pratiquement
jusqu'à
la fin.
Mais ils ont réussi leur mutation. Enrique est arrivé derrière. Il a gagné. Villanova est venu après Guardiola. Il a gagné. Donc ils ont réussi leur mutation de celui qui avait son empreinte sur le club. Ferguson, quand il est parti, il a laissé un héritage difficile pour tous les autres. Guardiola, il est parti. Il a laissé un héritage où les autres qui sont arrivés derrière lui ont gagné. Là, c'est que depuis quelques temps, t'as un effectif qui est vieillissant et ils n'ont pas su faire les bons choix au bon moment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il aurait fallu être dans la révolution de dire Piqué, merci beaucoup, mais c'est terminé. Busquets, merci beaucoup, c'est terminé. Et peut-être accepter le fait que ces joueurs-là puissent aller ailleurs et que tu les vois briller ailleurs et que tu dises, ok, nous on a choisi ce virage-là. Pour moi, le virage, ils l'ont pris à moitié. C'est-à-dire qu'ils ont pris un mini-virage, mais ils n'ont pas pris un virage en fait qui fait qu'aujourd'hui t'es sur une révolution. Pour moi, t'es pas sur une révolution.
Non,
quand t'as toujours Piqué, Busquets, Messi, t'es pas sur une révolution.
Comme disait Hervé, vire Busquets déjà.
C'est difficile. Moi, à ma place, à notre place, c'est facile de dire Busquets.
Parce que c'est beaucoup plus compliqué pour nous l'histoire Suarez. Ou Suarez, il était en difficulté quand même dans ce Barcelone. Et puis il fallait vraiment changer quelque chose.
Alors Messi qui veut pas aller sur le banc.
Non, mais
par exemple.
Attendez, au bout
d'une heure de jeu,
mais l'histoire Suarez, par exemple, c'est quand même très fort. Il vient, il a compris qu'il fallait absolument qu'il parte pour casser cette relation-là et peut-être relancer un peu Messi d'une manière différente. Ben, vous avez vu ce que ça a fait. L'un, il a dit, maintenant, je reste plus au club, je pars. Après, l'autre, il a fait des tweets enflammés, il pleurait en sortant du vestiaire. C'est-à-dire que c'est compliqué, ça déstructure totalement une équipe.
Et au cœur de ces problèmes, notamment Messi qui voulait partir cet été, il y a cette direction du Barça. La direction du Barça, elle se réunit aujourd'hui, François David. On sait quelle est la teneur des discussions ?
De toute façon, ça va être très simple. Hein. Soit la Generalitat, qui est la région de Catalogne, autorise le vote de censure, donc le 1er et 2 novembre, dans un lieu exclusif qui serait le Camp Nou pour éviter plusieurs zones différentes, éviter que les sociaux ici à Barcelone, où la plupart ont plus de 60 ans, donc une population à risque, aillent se déplacer. Donc soit c'est validé par la Generalitat, donc la région, ou alors Bartomeu et ses conseillers démissionnent en bloc. Donc voilà, donc on va savoir ça dans les prochaines heures. On n'a que deux alternatives finalement. Et dans le cas où finalement le conseil d'administration du FC Barcelone présidé par Bartomeu démissionnerait, on aurait un gouvernement provisoire qui durerait entre 40 et 90 jours, donc entre un mois et une semaine et trois mois, pour organiser de nouvelles élections. Mais de toute façon, avant-hier, je crois que la Generalitat a dit « Ok, on peut célébrer ces élections, donc les 1er et 2 novembre. » Mais bon, depuis hier, on a l'état d'urgence en Espagne. Donc le conseil d'administration s'accroche à ça en disant « Bon, vous voyez, c'est pas possible, on peut pas faire des élections en essayant de gratter quelques jours de plus. » Je crois qu'ils espéraient, un succès au Classico pour essayer peut-être de renverser un petit peu la tendance au niveau sportif et de faire croire aux sociaux que finalement ça ne servait à rien de faire des élections. C'est vrai, en Espagne, il y a une expression qui s'appelle « duro de matar », c'est-à-dire qu'il est dur à tuer, Bartomeu. C'est un vrai politique, il essaie de s'accrocher à quoi qu'il peut pour éviter ces élections, parce que ça en serait le premier président de l'histoire du FC Barcelone à être renvoyé par des sociaux, et ça, il n'a pas envie. Et c'est pour ça que si jamais la région de Barcelone indique « on fait ces élections les 1er et 2 novembre », eh ben ils démissionneront pour éviter la honte, en fait, d'être le premier président à être renvoyé par les sociaux.
Affaire à suivre donc dans les prochaines heures. Merci François David. Le Barça, on l'a compris, en plein doute, c'est un peu le bazar au club avant d'affronter en Ligue des Champions un autre grand d'Europe, peu flamboyant en ce moment, la Juventus Turin de la Juve. On en parle tout de suite.
Allez, les Bianconeri qui accueillent l'Hellas Vérone pour tenter de revenir à un point de l'AC Milan. But partout entre la Juve et l'Hellas Vérone avec une équipe d'Andrea Pirlo qui était tenue en échec à domicile.
La vieille dame au ralenti sans Cristiano Ronaldo, positif au Covid-19. Deuxième match nul d'affilée en championnat pour les hommes de Pirlo. Le Suédois Kulusevski, entré en jeu, a permis à la Juve d'égaliser après avoir touché deux fois la barre quand même. Cristiano Ronaldo absent donc lors des trois derniers matchs. Résultat, deux nuls en championnat, une victoire contre le Dynamo Kiev en Ligue des Champions. On ne sait pas encore s'il pourra jouer contre le Barça mercredi. Il fera de nouveaux tests Covid demain. Habib, Ronaldo, on le sent, il manque énormément à cette équipe de la Juve, presque des pendant du portugais.
Oui, parce qu'on peut considérer qu'il est l'ultime buteur de cette équipe. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il est omniprésent dans le jeu de la Juventus de Turin. Alors, il y a un nouvel entraîneur, mais le nouvel entraîneur, lorsque vous avez un joueur comme ça, forcément, votre projet de jeu tourne autour aussi de cette réussite-là. C'est quelqu'un qui amène une exigence au sein de ce vestiaire. Et forcément, lorsque vous ne l'avez pas, c'est plus difficile. Après, c'est pareil, on est encore une fois dans l'évaluation de comment cette équipe a été préparée physiquement. On sait qu'il y a eu des problèmes en Italie, beaucoup de problèmes. Il est aussi sur une nouvelle dynamique et peut-être un nouveau projet de jeu dont l'assimilation est un petit peu plus longue que forcément lorsque vous avez un entraîneur qui est là depuis 2 ou 3 ans. Et n'oubliez pas que, encore une fois, même s'ils sont champions d'Italie parce qu'ils ont une telle marge, ils l'ont été avec beaucoup moins de marge l'année passée et que depuis Allegri, c'est la même chose. La transition Allegri a été compliquée pour la Juventus de Turin. On a eu Sarri qui, pour moi, a été un échec pour la Juventus de Turin. Un échec, clairement. On a l'année dernière cet échec en Ligue des Champions qui est un échec retentissant parce que personne ne voyait la Juve sortir contre Lyon. Donc ça fait 2 années de suite que la Juventus de Turin, club emblématique italien mais club emblématique européen, est dans un échec important sur la scène européenne et qu'il faut savoir se relever de ça avec un entraîneur qui arrive avec de nouvelles méthodes. Donc il faut être patient, encore une fois. J'ai pas de doute sur le fait que la Juve soit présente à l'arrivée. Est-ce qu'elle sera première de Serie A? Je pense qu'elle a toujours autant de marche, enfin en tout cas plus de marche sur les autres. Mais c'est sûr que le début de championnat n'est pas radieux.
Il faut essayer de constater que pour l'instant les débuts de Pirlo ne sont pas bons, Chérif Guémour.
Il a fait deux choses. Il est en train de faire deux choses. Pirlo, il a des grandes ambitions au niveau du jeu. Quand il cite ses références, c'est vraiment les références qu'on aime. Le grand Milan, le grand Ajax, le grand Barça.
Ils le font tous, en général.
Oui. Mais par contre,
disait, c'est Pascal Duprat, contre, il y a
par
peu
contre,
de chance.
Par contre, il
non, mais la problématique, c'est
par contre, il est en rupture avec les deux entraîneurs d'avant. C'est que lui, il passe dans une défense à 3.
Ouais.
Ils jouent une sorte de 3-5-2, donc c'est une comment que s'appelle, c'est une petite gymnastique que les gens doivent adopter. Et surtout, il est en train de rajeunir. Enfin, le match d'avant, c'était contre Croton, ils font un match nul. Sur les 11 joueurs, il y a 5 joueurs qui ont moins de 23 ans. Donc, il doit aussi apporter du sang neuf. Il y a des blessés,
De Ligt,
Alexandro. Et puis alors Bonucci et Chiellini, ça va, ça vient. Donc pareil, il doit redémarrer. Il doit redémarrer sur des bases. Je pense que la Juventus, de ce que j'ai vu, c'est peut-être l'une des équipes les plus marquées physiquement que j'ai vu depuis cet été. C'est-à-dire que, comme le disait Habib, elle a dû batailler très dur pour encore gagner le titre. Et quand on regarde ses deux dernières performances en Ligue des Champions, il y a 2 ans, ils jouent contre l'Ajax, ça va trop vite pour eux, ils se font sortir. Et cette année, ils se font sortir par Lyon au niveau de l'impact physique. Ça veut dire qu'au niveau de la vitesse, ils sont dépassés. Et au niveau de l'impact physique, ils sont dépassés. Alors que ce qui faisait la force de cette Juventus, c'était ça. Et puis, là aussi, je veux dire, tout miser sur Cristiano Ronaldo, parce que ça fait partie, évidemment qu'on va pas se priver de Cristiano Ronaldo, mais Higuain est parti. Pas trop donné satisfaction. Et Dybala n'arrive pas à être le buteur à 15 buts.
Et c'est Morata, du coup.
Morata, est-ce que Morata est un buteur à 15 buts? La question est là aussi.
Il sera peut-être au final.
Peut-être.
Et puis ils seront peut-être encore en course. Mais il ne faut pas oublier que c'est un jeune entraîneur. Effectivement, il y a cette problématique Cristiano Ronaldo qui a plombé Sarri. Il ne faut pas se mentir. Parce que Sarri, on sait exactement quels sont ses concepts de jeu et ses principes. Alors lui, ça ne dévie jamais. Mais quand vous avez Ronaldo, vous ne pouvez pas les appliquer. Ça, c'était impossible. Donc il était bloqué. Alors je ne dirais pas que c'est un échec au sens strict du terme. Échec sur le plan du jeu, sur le plan des espérances, peut-être. En revanche, ils sont quand même champions d'Italie. Et mine de rien, c'est peut-être aujourd'hui Conte qui ne sera pas champion d'Italie. Là, ce sera un vrai échec de ne pas être champion d'Italie. Mais de toute façon, au bout d'un moment, ça s'arrête. Il ne faut pas croire qu'une équipe gagne toujours tout. Même le Bayern, d'un moment, ils seront battus en Allemagne. Parce que, et même eux, alors, ils ont une marge vraiment supérieure aux autres championnats. Mais en Italie, Milan AC, mine de rien, ils bossent bien. Vous avez Naples qui fait du bon boulot. L'Inter, ils sont bien renforcés. Donc, il y a quand même de la concurrence en face. Et à un moment, ça va céder. Et vous avez un entraîneur qui est un jeune entraîneur. Alors comme tous les jeunes entraîneurs, vous voyez, il faut bien qu'il débute, il faut bien qu'il apprenne son boulot. Il va se retrouver confronté à des problématiques qu'il ne maîtrisait pas. Parce qu'il y a c'est une chose de voir les choses à l'extérieur du terrain et puis de les vivre à l'intérieur quand vous êtes sur un banc de touche.
C'est le plus dur.
Ah, ça, c'est plus la même chose.
Non, mais c'est le plus difficile parce qu'en fait, on est dans la transmission, avoir des idées de jeu, une philosophie. On en a tous.
Bien
et
sûr.
Moi, ce qui me dérange un tout petit peu, et je ferai le rapprochement parce qu'on en parlera aussi tout à l'heure, c'est que tous ces entraîneurs qui arrivent et qui sont des immenses joueurs, je pense à Pirlo, je pense à Arteta, ils arrivaient tous avec une philosophie et une influence souvent en disant « moi je veux jouer comme ». En fait, ce qu'on aimerait, c'est que Pirlo joue comme Pirlo veut jouer. Que vous ayez des influences, c'est bien.
Il n'a pas les mêmes joueurs.
Mais la problématique, elle est, c'est que moi aussi, je suis très influencé par Guardiola. Mais aujourd'hui, avec quel effectif vous pouvez vous permettre de faire du Guardiola ? Très, très, très peu en Europe. Très peu en Europe, voire peut-être une ou deux équipes. Donc vous devez avoir votre propre influence, qui est la vôtre, qui sont vos idées de jeu, même qui sont influencées par ce que vous avez
bien
vu
sûr,
depuis 20
toujours
30 ans.
Influencé,
mais c'est vrai que Pirlo va avoir une difficulté, c'est qu'il va se rendre compte que la transmission, la philosophie, l'idée de jeu, les principes, ils sont aussi liés à l'effectif que vous avez et ils sont aussi liés aussi à la difficulté que vous allez rencontrer dans le championnat.
Et c'est plus facile de le faire. C'est pour ça que tu disais qu'il avait mis des moins de 23 ans. Faut pas oublier qu'il devait avoir l'équipe B quand même au départ. Hein. C'est quand même lui, il a été mis là par hasard. C'est parce qu'il n'y avait plus d'argent. On s'est dit, tiens, tu devais prendre la B, maintenant tu vas prendre là. C'est aussi simple que ça. Il met beaucoup de jeunes. Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour lui. Parce que gérer des plus anciens, des stars et les faire changer, c'est autrement plus difficile.
Grosse fatigue des cadres, que ce soit Cuadrado, Bentancur, on voit, Alexandro aussi, il est blessé, c'est pas un hasard. Delaire, bon, c'est un peu l'épaule.
Et le départ de Pjanic, ça fait du mal quand même.
Et le départ de Pjanic aussi.
C'est pas Arthur qui fait.
Mais les jeunes, Arthur, il est Arthur. Et puis, il n'était pas non plus 100% titulaire au Barça.
Non.
Avec une problématique, c'est que les internationaux de la Juve voyagent beaucoup. C'est-à-dire qu'on a les Cuadrado qui partent en Amérique du Sud. On ne se rend pas compte, mais sur les semaines internationales, c'est quelque chose qu'il faut intégrer lorsque vous avez des joueurs étrangers qui font 15 heures d'avion, même s'ils le font dans des conditions très 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 bonnes.
Tout à fait.
Dans cette période-là, c'est plus difficile pour tous ces clubs.
Et ils ont joué à Kiev la semaine dernière, qui est quand même assez loin.
Pour conclure, un tout petit point comptable, la Juve peut être reléguée ce soir à 6 points du leader l'AC Milan en cas de succès des Rossoneri face à la Roma.
Celle-ci n'est pas rose, mais noire. C'est le plus grand prédateur de l'île. Enfin, prédateur, faut quand même pas non plus exagérer. Cette panthère qu'on croyait disparue est toujours là. Passer sa journée à dormir au soleil sans même lever sa petite papatte, ça conserve.
Mais oui, il est toujours là, Pierre-Emerick Aubameyang, la panthère d'Arsenal, joue mais a terriblement faim de but en ce moment. Il en est à 5 matchs de suite sans marquer en Première Ligue après la défaite 1-0 des Gunners. C'était face à Leicester hier, une première pour le Gabonais en championnat d'Angleterre depuis son arrivée en janvier 2018. C'est grave, Dr Bey ?
C'est grave. Ce qui est grave, c'est pas forcément Aubameyang. Ce qui est grave, c'est ce qu'on a pu voir par exemple contre Manchester City, c'est-à-dire le projet de jeu d'Arteta. Ce qu'il a voulu faire dans un premier temps, c'est en fait solidifier cette équipe sur le plan défensif. Il a voulu l'équilibrer. Sauf que lorsque vous voulez travailler sur un aspect de votre équipe, vous allez forcément déséquilibrer l'autre aspect qui fonctionnait. Et l'aspect qui fonctionnait pour lui, c'était aussi cet aspect offensif. Il a voulu sécuriser forcément cette équipe défensivement. Maintenant, le problème, c'est qu'elle n'a rien produit, par exemple, contre City. Aubameyang a été utilisé sur un côté avec un Willian devant et on se rend compte qu'ils n'ont rien produit offensivement et que derrière c'est difficile de venir et de réinverser ce rapport de force et dire à votre équipe maintenant faut vous lâcher sachant que vous allez travailler sur le fait de moins prendre de buts et je pense que lorsqu'on regarde cette équipe elle se procure pas tant d'occasions que ça. Or Arteta dans son projet de jeu, il faut jamais l'oublier, c'est influencé par Guardiola et c'est influencé par le fait
lui
que
aussi.
Vous devez avoir offensivement des occasions, et cette équipe d'Arsenal n'en a pas. Et c'est surtout qu'elle n'a pas de marche, et défensivement, je la trouve très moyenne. Très moyenne, c'est-à-dire que quand on la regarde, je suis désolé, les David Luiz, les Holding, c'est des joueurs moyens, qui pour moi n'ont pas leur place dans un top 4 anglais.
Justement, Arteta, juste deux secondes, Arteta, sur ce collectif défaillant, le manque d'occasion, il s'exprimait là-dessus hier soir.
I think fatigue has...
Je pense qu'il y a eu de la fatigue. Nous n'étions pas aussi précis que d'habitude avec le ballon. Nous n'avons pas fait grand-chose avec la balle. David Luiz a apporté quelque chose de différent avec ses qualités offensives. Il a provoqué l'adversaire, il a été une menace. C'est ce qui nous a manqué en seconde période. Félicitations à Leicester. Ils étaient très bien organisés. C'était difficile de se créer des occasions. Nous en avons créé une avec Hector Bellerin, mais nous ne l'avons pas converti. C'est un point que nous devons améliorer.
we have to improve.
C'est trop peu, vous êtes d'accord avec ça, Sheriff Guémois?
Oui, mais je vais compléter ce que disait Abid. Abid nous a parlé de la défense, entièrement d'accord. Il nous a parlé de l'attaque, entièrement d'accord. Il y a quoi entre les deux? Il y a le milieu. Ils sont où, les Ramsey et Özil?
Non, mais alors il a Granit Xhaka. Il a Ceballos.
Xhaka qui l'a fait jouer en défense.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, là où t'as raison, c'est que c'est un équilibre, hein, qu'il faut avoir entre les trois lignes.
Elle est où la création au milieu?
La problématique, c'est que moi, je les ai vus, par exemple, contre City. Il nous dit que David Luiz par ses sorties de balles ou Gabriel par ses sorties de balles, ce sont des sorties de balles qui sont pour moi assez faibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment touches-tu tes milieux de terrain? Quelle est l'ambition que tu as avec ces défenseurs-là, Bellerin, David Luiz et Gabriel,
de toucher le jeu, hein? C'est des longues passes, hein, c'est des longues transitions.
Oui, mais c'est justement, on revient à l'idée, c'est que avoir une idée de jeu et une philosophie, il faut qu'elle soit en accord avec le profil de tes joueurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, avoir cette philosophie et cette ambition avec Arsenal, je trouve que c'est une ambition trop importante. Il n'a pas les joueurs pour, aujourd'hui, produire un football où il va avoir 70% de possession de balle. Et au résultat de ce match, il a, ok, 57, 58% de possession de balle, mais il a 2 ou 3 tirs cadrés. C'est insuffisant. Quand tu es Arsenal et que tu as ce projet de jeu, si tu es sur un projet de jeu Mourinho, ça va. Tu sais que c'est 2-3 occasions, ça va te faire gagner un match parce que tu es comme ça. Mais par contre, tu nous vends pas un projet différent si tu n'as pas le profil de joueur pour le faire, c'est tout simple.
Hervé Penaud, Aubameyang, il est mal entouré, je sais pas, il y a Nicolas Pépé, il y a Lacazette autour de lui.
Bon, Lacazette c'est un très bon joueur, Lacazette très bon remiseur. Nicolas Pépé, la difficulté c'est qu'il faut qu'il se remette lui-même dans le rythme, hein. On sait qu'il sort d'une année un peu difficile. Willian, c'est quand même quelqu'un qui est très bon mais qui connaît très bien le championnat d'Angleterre. Non, les joueurs sont là. Maintenant après c'est exactement ça, hein. C'est le projet de jeu, c'est comment vous devez jouer. On a l'impression que c'est une équipe qui serait faite quasiment pour faire que de la transition rapide, des contre-attaques, pas du tout de la maîtrise de la balle. Parce que de toute façon Vous avez des joueurs devant qui vont à 300 km/h.
Mais c'est bien.
Plus un Lacazette au milieu qui lui a la capacité technique de faire jouer les autres. Parce que lui, il a ça. Il est capable de décrocher. Il est capable d'envoyer les autres dans la profondeur. Et vous avez des joueurs de profondeur. Donc voilà. Et le problème, c'est le projet de jeu, le profil des joueurs que vous avez. Puis mettons attention. Hein, je veux dire, en dehors de l'entraîneur, c'est aussi aux joueurs d'être capable de marquer des buts quand ils se créent des occasions. Aubameyang doit faire plus aujourd'hui. Il est dans une période. Bon,
qu'est-ce
il a
qu'il
connu
manque,
aussi ça. Bon, les buteurs, c'est pas grand chose. Parfois, ça va repartir. On l'a vu marquer quand même un but récemment, là, dans sa spéciale.
Non, mais c'est tout faire. Droit.
Mais il marque pas dans les grands matchs, messieurs. Il marque pas dans les grands matchs.
Il a marqué sur la pelouse de Vienne.
Oui, mais il marque pas dans les grands matchs et ça lui a été reproché. Attention, c'est un joueur formidable. C'est un joueur formidable.
Peut-être sa limite, c'est sa limite par rapport aux très grands attaquants.
Peut-être que sa limite par rapport aux très très grands. Mais aujourd'hui, un exemple très simple pour finir. Thomas Partey, qui est pris à l'Atlético Madrid pour arriver à Arsenal. Il le met milieu relayeur. Ne pas oublier qu'à l'Atlético Madrid, il était dans un milieu à deux, en 4-4-2, où il travaillait au milieu de terrain, où son rôle premier n'était pas forcément d'être le premier relanceur de cette équipe. Là, il va devoir évoluer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir cette évolution. Mais forcément, pour lui, l'adaptation va être peut-être un petit peu plus difficile parce qu'il arrive dans un nouveau projet de jeu qui doit trouver sa place. Mais là où on rejoint tout le monde, c'est qu'on sent bien que les entraîneurs sentent de la fatigue dans leurs équipes. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème.
Sheriff Guémois, un petit mot?
Je suis pas inquiet pour Pierre-Emerick. Alors là, par contre, information intéressante. Ouais, c'est vrai, il a du mal à marquer contre les grosses équipes. Mais par contre, il s'est marqué dans toutes les positions. Il s'est marqué en faisant un raid sur la droite ou sur la gauche. Il peut y aller tout seul, en remise, en finition. Enfin, finition serait plutôt la casette. La palette de buteur, il l'a encore. Voilà, il y a une panne, mais bon, mais pour l'instant, on s'inquiète pas. Voilà, pour l'instant, on s'inquiète pas.
Le seul qui est pas en panne, c'est Lewandowski en ce moment.
Ouais, c'est ça.
non, en Europe, c'est vrai.
Non, et puis on était tellement
alors,
habitués.
Alors le Bayern, ils ont un super attaquant, ils ont un super entraîneur, ils ont un super banc.
On a trop été habitués avec l'ère des Messi, Ronaldo, à ce que les joueurs marquent tout le temps. Messi marquait pas pendant deux matchs. À un moment, on se dit, oh, il se passe quelque chose, il y a une crise. Des buteurs qui ont des 5, 6, 7 matchs sans marquer, mais c'est arrivé 150 fois.
À Cristiano, ça lui est arrivé.
Même
à
Cristiano. Donc a priori, vous n'êtes pas
trop... Non, on n'est pas inquiet. Responsabilité supplémentaire, il a le capitana voilà, aussi, il a une
sûr.
Forme de
le
pression.
Le plus gros salaire aussi.
Voilà, non, mais c'est mérité.
Pour le coup, c'est mérité, et
on n'est pas inquiet pour lui parce
quelle
que c'est
carrière,
vraiment un joueur
formidable.
Prochain rendez-vous pour Aubameyang et les Gunners, ce sera donc jeudi en Ligue Europa face au club irlandais de Dundalk. Tiens, la Coupe d'Europe, c'est pas ce qui manque à Lyon cette saison? Eh bien, ne pas jouer en Coupe d'Europe cette semaine, cela a plutôt réussi aux Lyonnais hier. Carton 4-1 face à Monaco pour clore la 8e journée de Ligue 1. Deuxième succès et deuxième doublé de suite pour le Camerounais Karl Toko Ekambi. Après un mauvais début de saison, ça va mieux, Lyon, Hervé Penaud?
Oui, ça va mieux. Alors, ça va mieux. Donc, les Monaco non plus n'avaient pas de Coupe d'Europe. Donc, ça, c'était pas un avantage hein, par rapport à Monégasque. Mais non, ça va mieux parce que déjà, le mercato est terminé. Alors, on savait pas du tout quelle équipe pourrait avoir Lyon. Hein. Et Rudy Garcia, bah, il savait pas avec qui travailler, d'une certaine manière. Bon, à la fin du mercato, mettons, on sait que Depay et Aouar, par exemple, sont présents. Et puis, il a trouvé un système de jeu qui convient à peu près à ses joueurs en utilisant la profondeur. C'est-à-dire qu'il a eu la chance aussi de tomber contre deux adversaires qui ont décidé de jouer très haut. Donc, lui, il avait compris qu'à un moment, si vous jouez dans leur dos avec des joueurs rapides, eh ben ça va aller un petit peu mieux. Memphis Depay revient bien après un peu de difficulté. C'est normal, il a été opéré en décembre dernier. Donc en gros, on dit qu'il faut un an pour qu'un joueur revienne à son meilleur niveau. Là, ça fait 2-3 semaines, ça y est, qu'il revient vraiment bien. Il a eu des choix forts aussi, Rudy Garcia, parce qu'il s'est dit d'une certaine manière, si l'année prochaine je suis pas là, c'est ce qui se murmure un peu dans le club. Il dit, bah, de toute façon, ce que je vais faire, c'est faire jouer les meilleurs. Et puis surtout, essayer d'avoir un équilibre d'équipe qui permette à chacun d'être au top de leur forme.
Donc, qu'est-ce qu'il a bas?
Bah, pour l'instant, on verra un petit peu comment ça va se passer. Parce qu'il y a certaines équipes, quand il va jouer contre des petites équipes, bloc bas, ça va être compliqué. Si vous jouez Metz en bloc bas, là, je sais pas qui va jouer.
La balle va être au milieu de terrain. Petites équipes, Lyon.
Non, parce qu'ils sont plus en difficulté quand il faut faire jeu, mais c'est partout pareil, hein. Oui. Toutes les équipes sont plus en difficulté contre, quand vous avez 10 joueurs dans une surface de réparation. Mais c'est normal. Créer de l'espace là où il n'y en a pas, c'est ce qu'il y a de plus dur en football. En revanche, jouer dans de la transition rapide comme ça, c'est un petit peu plus facile. Donc, il a su maximiser le potentiel de son effectif, prendre des décisions très fortes. Rappelons-nous qu'il a quand même mis Memphis deux fois sur le banc de suite. C'est pas simple, hein, Lyon, de mettre Memphis sur le banc. Il a mis deux fois de suite Dembélé sur le banc, tout en essayant de le relancer. Et chaque fois qu'il y a une conf de presse, de toute façon, son seul truc, c'est de dire les entrants ont été bons, ils nous ont apporté, parce qu'il a bien compris que de toute façon, Lyon, avec le groupe qui est là, vous êtes entraîneur, vous êtes mort. Il faut pas rêver. Il y a un match par semaine. Si ça gagne, vous allez jouer à peu près toujours avec les mêmes joueurs. Donc il y a ceux qui seront sur le banc qui seront pas contents. Parce que le pire, c'est que même quand vous les faites rentrer, faut pas croire, mais ceux qui sont sur le terrain, ils sont pas très contents non plus de sortir. Donc au bout d'un moment, ça peut être une mauvaise mayonnaise. Mais enfin, c'est comme ça, il le sait. Vous savez, je pense qu'il a assez d'expérience. Il y a pas de souci.
Avec le réservoir qu'il a, il peut pas faire mieux. Rudy Garcia, au moins dans le jeu, offensivement, Kadewere, Dembélé, Depay.
C'est tout le drame de Rudy Garcia. C'est un football assez cynique. Je suis d'accord avec toi. Il est là pour un an. Ensuite. Donc il construira pas, éventuellement il fera monter en grade des petits jeunes, éventuellement, mais ça va être dur parce que de toute façon, il n'y a pas de Coupe d'Europe
et pas de Coupe de la Ligue.
Il a des bonnes individualités. Donc voilà, sans trop forcer, 3-4...
C'est une équipe pas équilibrée, attention, ça n'a jamais été une équipe équilibrée, que ce soit Genesio, Silvinho, sur lequel on a tapé assez vite, j'ai trouvé, et lui, c'est pour ça que c'est compliqué, puisque de toute façon, les gens voient des bons joueurs, alors, qu'est-ce qu'ils ont comme bons joueurs? Mais ça ne veut rien dire, avoir des bons joueurs, ça n'a aucun sens, parce que tout entraîneur, et Habib qui travaille là-dessus, il sait très bien, ce que vous recherchez, c'est un équilibre d'équipe. Des fois, il vaut mieux deux joueurs un peu moins bons que deux stars qui vont se bouffer dessus. Mais ça... Là, vous avez acheté un Paqueta, donc au poste de Paqueta, en gros, et là, il l'a mis un peu différemment, vous avez Aouar, Memphis Depay, Paqueta et Cherki, qui en ce moment peut pas jouer. C'est pas parce que Garcia veut pas le faire jouer. Il est tenté de le faire jouer. Mais à un moment, il faut bien faire. Comment vous faites? Il y en a que 11 qui jouent.
Heureusement,
vous
êtes seul 5
joueurs. Après, ce qu'on a reproché à Rudy Garcia par le passé, c'est qu'il était pas capable de faire des coups tactiques. Mine de rien, hier, c'est lui qui gagne le combat tactique face à Kovac. Parce qu'il sait très bien que Monaco va avoir le ballon. Il sait très bien que Kovac veut jouer haut et il profite justement de cet aspect-là en laissant le ballon totalement à Monaco. C'est assumé. Hein,
34% de possession de balle.
34% de possession de balle, c'est pas que vous l'avez subi, c'est que vous l'avez assumé en quelque sorte. Il savait que son équipe ne pouvait pas rivaliser sur cet aspect-là. En tout cas, il ne voulait pas rivaliser sur cet aspect-là avec Monaco. Et il savait très très bien que quand Monaco justement sur les côtés s'ouvre un petit peu, on le voit bien, hein, les buts, ce sont des buts qui arrivent justement du côté où les centraux sont obligés de penser derrière les latéraux, et derrière il y a des boulevards. On se rend compte que ça, il l'a bien étudié, donc c'est aussi sa victoire, et ça il faut le dire. Il faut le dire quand il est bon tactiquement, parce que c'est rare, je trouve. Là, il l'a été. Et puis, encore une fois, il se repose sur une chose qui est très importante, c'est qu'il y a eu le problème Mercato, où c'était très difficile de faire jouer Aouar à son meilleur niveau, Depay à son meilleur niveau, parce que ces joueurs-là étaient éventuellement dans des idées de partir. Maintenant, ça y est, c'est ancré. Jusqu'au mois de décembre, vous êtes à Lyon, il faut être performant si vous voulez partir. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est qu'ils ont toujours ces velléités de départ. Depay, il se dit, on sait jamais, hein. Moi, si en décembre, le Barça revient et que le Barça a un peu
de difficulté, c'était réglé avec le Barça.
Il sait très bien qu'il doit être bon et performant et qu'il doit avoir du temps de jeu. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, pour Rudy Garcia, de plus avoir ses problèmes d'effectifs. Reina Adelaide est parti, c'était un petit problème aussi. Il a un petit peu épuré toutes ces problématiques qu'il avait à l'intérieur de son groupe. Après, ce qu'il va rencontrer, c'est que comme il joue une fois par semaine, il va devoir faire des choix et il va frustrer des joueurs. Et ça, c'est la gestion d'un entraîneur au quotidien. 2, les sensibilités des uns et des autres, il faut savoir les calmer, mais je trouve que hier, Lyon est dans son registre, avec le profil de joueurs qu'ils ont à la disposition, c'est très très bien.
Et en jouant comme ça, Chérif, on peut finir 3e ou dans le top 3 de Ligue 1.
Tout à fait. Tout à fait. Alors le truc, c'est bon, on va voir un peu ce que vont donner les autres. Bon, après, on connaît la valeur réelle de la Ligue 1 qui est pas super. Mais je suis plus intéressé par voir ce que développe Lille, ce que développe Rennes, ce que développe Monaco. C'est un peu trop jeune. Donc
Lille, c'est un peu le même style de jeu.
Hein?
Lille, c'est beaucoup de transitions rapides, aller vite vers l'avant.
Il y a quand même de la possession.
Plus ambitieux dans le jeu,
peut-être. Tu investis quand même la moitié adverse à la différence de Lyon. C'est aussi un truc qui
se met en place. Mais Lille était en difficulté. Lille, ils peuvent le perdre, le match contre Nice. Parce qu'ils font pas une bonne première mi-temps. Ils font une meilleure deuxième mi-temps. Ils ont Kefren Thuram qui est à la tête du 2-1 pour Nice et on se demande comment il la rate. Donc, Lille peut aussi être en difficulté. Donc, je trouve que ce qui est intéressant, en fait, c'est ce que disait Hervé. C'est qu'à un moment donné, les entraîneurs cherchent à optimiser leur effectif en fonction des qualités qu'ils ont. Si Rudy Garcia agit comme ça, ça peut marcher, sauf que comme l'a dit Hervé, quand vous allez jouer Metz, c'est pas Metz qui va vous se mettre dans votre partie de terrain. Voilà. Et vous devrez jouer différemment. Est-ce que vous êtes capable de le faire? C'est tout l'enjeu.
Ça peut encore peut-être fonctionner contre Lille pour le prochain match. Après, il y aura des matchs, ils vont jouer différemment. Ils seront obligés de jouer différemment.
Lille dimanche. Lyon pas si mal. Donc, 6e à 2 points du podium après ce carton à 4-1 face à Monaco. Mais ce n'est pas le match le plus spectaculaire du week-end. Loin de là.
Blind. Traoré ingespeeld, blind doorgelopen, 8-0. Onwaarschijnlijk, de ene na de andere. Achter elkaar door, Ajax blijft vol gas geven. Tegen een totaal lamgeslagen VVV.
Une leçon, une gifle, une correction. L'Ajax Amsterdam a gagné 13-0 samedi à Venlo aux Pays-Bas. Jamais une équipe n'avait marqué 13 buts en un seul match dans ce championnat. Jamais un joueur n'avait marqué 5 buts depuis Marco Van Basten en 1985. Et ce joueur, c'est le jeune Burkinabé Lassina Traoré, auteur également de 3 passes décisives. C'est l'homme du week-end et Martin Guez du service des sports de RFI a pu le contacter. Voici un petit extrait de son interview diffusée hier dans Mondial Sport.
C'est un peu tout nouveau pour moi. J'ai reçu beaucoup de messages là-bas de mes amis, de tout le monde du foot, donc ça fait un peu plaisir. J'ai l'habitude de marquer des buts, mais c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était rentrer dans l'histoire de l'Ajax, c'était quelque chose de tout nouveau pour moi. J'étais hyper étonné après le match en moyen premier de cette performance. C'était vraiment très émouvant. Mais on regarde cette vidéo à chaque fois, on parle de lui à chaque fois dans le vestiaire, donc j'ai une idée de la personne. On continue toujours de travailler parce qu'à l'Ajax, ça demande ça. On a déjà oublié le match d'hier. On t'attend toujours. Donc, il faut être toujours prêt quand on te donne les bouts de minutes que tu dois exploiter. Si on voit l'année je suis passé, on avait un capitaine qui avait 19 ans, Mathias Benito. Ouais. Donc, c'est une équipe qui, quand tu es bon, tu joues, il n'y a même pas de souci.
Lassina Traoré, quintuple buteur avec l'Ajax, interview à lire ou à écouter sur le site de RFI. Chérif, il a 19 ans et déjà beaucoup de talent, ce jeune Burkinabé, apparu 8 fois avec les étalons. Selon vous, ça, il peut exploser encore plus au plus haut niveau et s'imposer à l'Ajax.
L'Ajax a bien fait les choses, donc on rappelle qu'il est issu de l'Ajax Cape Town, c'est un club satellite de l'Ajax, donc il a été couvé, comme on dit. Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax, l'avait déjà à l'œil, il l'avait déjà repéré à l'œil, donc il avait déjà pensé à sa progression. Quand on a un numéro 9 et qu'on joue à l'Ajax, il y a un ailier droit, un ailier gauche, un meneur de jeu, des combinaisons. Donc on se régale. À votre avis, pourquoi Dolberg est aujourd'hui à Nice? Parce que on lui a fait confiance. Dans le passé, il y a eu des Fischer, il y a eu d'autres joueurs. Voilà, il y a Suarez qui a réussi et il y a le voilà. On souhaite à ce petit gars qu'il ait la même gloire entre guillemets que Suarez.
Lassina Traoré, grand espoir du foot burkinabé. Il évolue notamment en sélection avec ses cousins, les frères Bertrand et Alain Traoré. Alain Traoré qui a remporté la Coupe de la Confédération avec Berkane ce week-end. On n'a pas eu le temps d'en discuter. Tant pis, on en parlera peut-être un autre jour. Vous pouvez aller sur le site de RFI.fr. Merci à vous, messieurs Habib Bey, Chérif Guémour et Hervé Penaud. Merci également à Laurent Salerno et Sarah Loubacouche.